Le service Orange Monnaie, réception d'argent depuis la France, en partenariat avec la Banque Atlantique, vous propose Appel sur l'actualité.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
L'antenne vous appartient. Dans 30 minutes, nous prolongerons le débat africain exceptionnel diffusé hier à 7h06 sur RFI autour d'Alain Focas, deux présidents africains, le Sénégalais Macky Sall et l'Ivoirien Alassane Ouattara, ainsi que la nouvelle patronne du FMI, Kristalina Georgieva. Durant 50 minutes, il a surtout été question de la dette. L'Afrique est-elle surendettée? Le continent peut-il financer son développement lorsque plus de 40% des recettes budgétaires sont consacrées justement au remboursement de la dette? En tout cas, ce qui ressort des propos des deux chefs de l'État et de la directrice générale du FMI, c'est que non, la dette n'est pas un frein au développement de l'Afrique. D'ailleurs, dans la majorité des pays, la dette a même été utilisée pour doper la croissance et créer des emplois. Alors vous qui nous écoutez sur le continent africain, dites-nous si vous partagez ce constat. Qu'en est-il dans votre pays? La dette, l'endettement a-t-il permis de promouvoir le développement? On prolonge donc le débat tous ensemble dans 20 minutes, dans 30 minutes. Vous nous appelez 33 9 693 693 70 et évidemment, comme tous les matins, je lirai quelques-uns de vos commentaires postés sur WhatsApp et Facebook. Mais d'abord, votre rendez-vous quotidien avec la rédaction de RFI, rendez-vous interactif, vos questions à la rédaction. Bonjour Didas.
Bonjour Juan Gomez.
Merci de nous appeler de Brazzaville. Vous avez des questions concernant les résultats du premier tour de l'élection présidentielle en Guinée-Bissau.
En effet, Juan Gomez.
On vous écoute.
Les résultats de l'élection présidentielle sont tombés il y a 10 jours en Guinée-Bissau. Mm-hmm. Le président sortant, José Mario Vaz, a été battu. Ce qui m'amène à poser deux questions. Qu'est-ce qui explique cette lourde défaite de Mario Vaz, absent au deuxième tour? Et la semaine dernière, il avait accusé l'opposition de fraude électorale. Qu'en est-il? Est-elle avérée, Juan Gomez?
Ah, bonne question, effectivement. On va essayer d'en savoir plus avec Charlotte Hydrac, correspondante permanente de RFI à Dakar. Elle était l'envoyée spéciale de RFI en Guinée-Bissau à l'occasion de ce premier tour de la présidentielle. Bonjour Charlotte.
Bonjour à tous.
Alors effectivement, le second tour opposera les deux anciens premiers ministres, Domingos Simoes Pereira et Umaro Sissoko Embalo. Le président sortant est quant à lui arrivé en quatrième position. Expliquez-nous pourquoi il n'a pas réussi à se qualifier pour le second tour.
Oui, il a raté son pari, hein, José Mario Vaz, surnommé Jomav, son diminutif. Il est le premier président, d'abord, à avoir terminé son mandat depuis 1994 en Guinée-Bissau. Et il avait beaucoup insisté là-dessus hein, pendant sa campagne, en se présentant comme un homme de paix. Alors, qu'est-ce qui explique cette défaite? D'abord, on peut peut-être avancer l'argument de l'instabilité qui a marqué son mandat. Ça a été une valse de premier ministre, hein, ces dernières années, 7 au total, 8 même, si on compte celui qu'il avait nommé moins d'un mois avant l'élection et qui avait démissionné 11 jours plus tard. Et cette instabilité, elle avait commencé dès le départ, hein, dès son arrivée au pouvoir, quand José Mario Vaz avait limogé du poste de Premier ministre, justement Domingos Simoes Pereira, issu du parti majoritaire à l'Assemblée, le PEIGC. Donc voilà, en termes du bilan, ça n'a pas été à son avantage. Deuxième point ensuite, Jomav s'est présenté en indépendant, hein, sans étiquette, sans parti. Lui-même, il est issu de ce fameux parti PIGC qui domine la vie politique en Guinée-Bissau, mais il a été exclu de cette formation. Donc il n'avait pas vraiment d'assises, hein, pas de réservoir de voix. Il a essentiellement fait campagne à l'intérieur du pays, donc manifestement, ça n'a pas suffi. Et troisième facteur, enfin, oui. On peut avancer. Oui, je vous écoute.
Non, mais justement, peut-être est-ce que son isolement sur la scène internationale a peut-être contribué à cette défaite.
Alors voilà, vous vous souvenez que José Mario Vaz avait achevé son mandat en juin. La CEDEAO, médiatrice dans la crise, l'avait autorisé à rester en poste jusqu'à la présidentielle, mais avec des pouvoirs très réduit, très restreint. Et du coup, quand il a décidé de limoger le Premier ministre Aristide Gomes moins d'un mois avant l'élection, là, l'organisation ouest-africaine a vu rouge, elle a dénoncé une décision illégale. Toute la communauté internationale a fait bloc pour suivre cette position, pour faire pression sur José Mario Vaz, qui s'est retrouvé En quelque sorte, seul contre tous.
Oui, alors Didas faisait référence à ces accusations de José Mario Vache. Au lendemain du scrutin, il pointait du doigt ses opposants qu'il accusait de fraude. Il dénonçait des bourrages d'urnes. Est-ce avéré ?
Même le jour du scrutin, avant même la fermeture des bureaux de vote, le dimanche, c'est son directeur de campagne qui avait lancé ses accusations, Boce Kandé. Devant la presse, il avait parlé de bourrage d'urnes dans plusieurs régions, d'achat de conscience aussi. Il avait accusé des commissions régionales des élections, donc des commissions régionales des élections, de complicité. Est-ce que c'est avéré ? Ce qu'on peut répondre en tout état de cause à Didas, c'est que la Commission nationale électorale a démenti tout bourrage d'urne. Selon elle, il y a eu une confusion parce que vous savez, les bulletins des forces de défense et de sécurité qui avaient voté en avance dès le jeudi ont été transportés ensuite vers leur région. Et donc, elle explique, cette commission, que certains ont pu croire que des urnes déjà remplies étaient amenées dans les commissions régionales. Voilà son argument. Du côté des observateurs internationaux, ils ont relevé quelques incidents, mais mineurs. Ils étaient assez nombreux, 200 au total. Il y avait ceux de la CDAO, de l'Union africaine, de la communauté des pays de langue portugaise, des États-Unis, bref, j'en passe. Tous ces observateurs ont salué le bon déroulement du scrutin, donc sans fraude, ou en tout cas sans irrégularité qui pourrait remettre en cause la validité de l'élection. Et en cas de contestation, donc d'accusation de fraude, ils ont appelé les acteurs politiques à faire des recours par des voies légales.
Didas, a-t-on répondu à vos questions ?
Merci beaucoup, Anna.
Merci surtout à Charlotte Hydrac, notre correspondante permanente dans la sous-région. Le second tour, en tout cas, est prévu dans 3 semaines, le 29 décembre, et les grandes manœuvres ont déjà commencé. On a pu vous entendre ce matin, Charlotte Hydrac, concernant cet accord conclu hier entre le candidat arrivé en deuxième position et celui arrivé en troisième, élection présidentielle, campagne électorale, à suivre évidemment sur notre antenne. 9h17 à Paris, d'autres questions à la rédaction. Bonjour Idriss.
Bonjour Juan, bonjour à Stéphane Lagarde à Pékin et bonjour à tous les auditeurs
d'RFI. Eh bien Stéphane Lagarde qui est déjà avec nous, vous êtes très bien informé Idriss, c'est lui qui répondra à vos questions sur la crise politique qui secoue Hong Kong. Bonjour Stéphane.
Bonjour Juan, bonjour Idriss.
Nous vous écoutons Idriss.
Bien. Juan, le président américain a promulgué une loi soutenant les manifestants pro-démocratie à Hong Kong, entraînant la colère de la Chine qui a pris des sanctions en représailles contre la marine américaine et les ONG.
Oui.
Alors Juan, en quoi la loi approuvée par le Congrès américain soutient-elle les manifestants et en quoi consiste cette sanction chinoise ? Sont-elles vraiment contraignantes ?
Alors Stéphane Lagarde, Donald Trump a longtemps hésité, mais il a fini par promulguer cette loi dont parlait Idriss à l'instant, la loi de 2019 sur les droits humains et la démocratie à Hong Kong. En quoi ce texte, qui a été adopté à une large majorité par les deux chambres du Congrès américain, en quoi ce texte, cette loi, est un soutien aux manifestants de Hong Kong ?
Alors c'est une très bonne question Idriss, parce qu'effectivement on pourrait se dire que c'est un geste symbolique, une façon pour les États-Unis de dire on est avec les manifestants, mais c'est plus que ça, effectivement. D'une certaine manière, c'est effectivement symbolique, c'est un geste qui a fait beaucoup de bruit, vous l'avez dit, la colère de la Chine. Mais quand les choses viennent des États-Unis, forcément, puisqu'on est quand même dans un bras de fer entre les deux premières économies du monde, eh bien, ça fait du bruit, encore une fois, et plus que ça, c'est un acte qui entraîne des sanctions, en tout cas des conséquences. Le texte prévoit notamment que le département d'État américain, Idriss, vérifie au moins une fois par an où en sont les libertés et l'autonomie de cette région spéciale chinoise. Alors ça semble assez flou, mais enfin, justement, il doit vérifier cela, cette région spéciale. Pourquoi ? Il faut quand même le rappeler, hein, Juan et Idriss, il faut rappeler que Hong Kong, depuis sa rétrocession par les Britanniques en 1997 à la Chine, Hong Kong est sous le régime de ce qu'on appelle un pays, deux systèmes, avec des libertés dont ne dispose pas le reste des Chinois. Et c'est de ça que vont vérifier maintenant le département d'État américain. Tous les ans, il devra dire, est-ce que, eh bien, tout simplement, les Hongkongais ont toujours autant de liberté qu'avant. Et c'est pour ça, d'ailleurs, on parle de la colère de Pékin, mais on parle aussi de la colère du gouvernement local à Hong Kong. La chef de l'exécutif, Carrie Lam, hier encore, a dit « Mais de quoi parlez-vous ? Aujourd'hui, les Hongkongais ont des libertés, ils manifestent dans la rue, ça on les voit manifester,
oui.
Ils peuvent aussi aller voter pour les élections de district. Donc pourquoi cet acte ? Elle a dénoncé, elle a condamné elle aussi cet acte. Il y a cela, et puis dans les conséquences encore, tous les ans, donc si jamais, par exemple, le département d'État américain disait les libertés ne sont plus celles qu'elles étaient avant à Hong Kong, il pourrait décider de retirer les avantages spéciaux, les avantages commerciaux qui étaient donnés par les États-Unis à ce territoire et qui ont permis à ce territoire chinois de devenir un pôle financier mondial, donc ça aurait des conséquences économiques, évidemment.
Oui, une loi américaine, donc, pour maintenir la pression sur les autorités de Pékin et de Hong Kong. Alors, Pékin a immédiatement qualifié cette loi d'abomination absolue. Pékin, et Idriss le rappelait à juste titre, Pékin a menacé Washington de représailles, et la Chine est passée de la parole aux actes, hein, puisque les premières sanctions sont tombées.
Oui, alors effectivement, alors maintenant aussi, en quoi ces sanctions sont effectives? Alors la Chine a interdit les visites, qui étaient des visites de tradition, des tentes des navires américains et des aéronefs américains. Alors ça, en fait, ça existe depuis le début de la contestation à Hong Kong. Depuis juin dernier, les navires qui sont par exemple basés au Japon, hein, les navires américains, ne peuvent plus visiter Hong Kong. C'est interdit par le gouvernement chinois. Donc c'est une prolongation de ce qui avait été décidé. Et puis autre condamnation, les ONG, effectivement, plusieurs ONG sont pointées du doigt comme soutien, elles auraient soutenu, disent les autorités chinoises, les manifestants hongkongais. Donc qu'est-ce que ça pourrait être les sanctions? Ça n'a pas été dit comme ça pour le moment, mais certains éditorialistes, comme celui du Global Times, le journal chinois le dit, il pourrait y avoir des répercussions en termes de visas, ne plus accorder des visas à ces représentants d'ONG, aux représentants américains. Et c'est la même chose d'ailleurs, Idriss, puisque hier, vous le savez, la Chambre des représentants aux États-Unis a voté un nouvel acte, cette fois concernant le Xinjiang, donc la partie à l'ouest de la Chine. Et pareil, le gouvernement américain a menacé les représentants chinois qui auraient violé les droits de l'homme dans cette région et violé les droits notamment des musulmans chinois ouïghours dans cette région de ne plus avoir de visa. Donc là encore, la Chine a ce matin tapé du poing sur la table en disant qu'elle annoncerait des contre-mesures et des sanctions pareil.
A-t-on répondu à vos questions, Idriss?
Oui, a été très bien répondu. Et merci surtout à Stéphane Lagarde.
Oui.
Bonne journée. Bonne fin d'après-midi à Pékin.
Bonne fin d'après-midi à Pékin. Pékin, il doit être quelque chose comme 16h22 ou 15h22, Stéphane?
La nuit est en train de tomber, effectivement. Enfin, il fait déjà le soir tombe. Merci beaucoup,
voilà.
À Idriss, et merci à nos auditeurs. Merci, Juan.
Et bonne journée, bonne soirée, Stéphane. Merci, Idriss. Soyez fidèles. Continuez à nous écouter à Abidjan. 9h22 ici à Paris. Bonjour ici à Kamoustapha.
Bonjour.
Merci de prendre quelques minutes ce matin pour répondre à une question d'auditeur. Vous êtes l'avocat de l'homme d'affaires et opposant béninois Sébastien Ajavon. Je me fais le porte-parole de Vincent, qu'on n'arrive plus à contacter, à joindre. Il y a un problème avec son téléphone, visiblement. Vincent qui nous dit « La Cour africaine des droits de l'homme et du peuple a donné raison à l'opposant Sébastien Ajavon dans l'affaire qu'il oppose à l'État béninois. Sébastien Ajavon avait été condamné à 20 ans de prison par le Bénin. Comment expliquer la décision de la Cour africaine des droits de l'homme d'annuler sa condamnation? C'est une bonne question que nous pose cet auditeur, d'autant que la Cour africaine des droits de l'homme, en un an, elle a rendu 3 arrêts favorables à votre client. En décembre 2018, elle a demandé la suspension du jugement, et puis en mars dernier, elle a demandé son annulation. Pourquoi?
Oui, cette décision se justifie pour plusieurs raisons. Les premières sont liées d'ailleurs aux conditions dans lesquelles l'affaire même a été révélée au public, les faits de la cause. Et les deuxièmes raisons, c'est que c'est lié à la procédure même qui a abouti à la condamnation de M. Ajavon. Mmh. La première raison, c'est que tout le monde sait au Bénin ici hein, qu'il s'agit d'un montage grossier. M. Ajavon n'a rien à voir avec cette affaire-là parce que il s'agit d'un conteneur qui est destiné à une société qu'il dirigeait, et ce conteneur...
Excusez-moi, Issiaka Mustapha, malheureusement le réseau téléphone n'est pas très bon. Avez-vous branché votre haut-parleur? Avez-vous peut-être mis une oreillette? Puisque sinon, on ne vous comprend pas très bien. On va essayer de régler ça hors antenne. Et on va tenter de vous retrouver d'ici la fin de l'émission. C'est dommage de vous avoir et de ne pas comprendre vos arguments. On va donc accueillir un autre auditeur sur l'antenne de RFI. C'est Patrice, bonjour.
Bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Bienvenue Patrice, vous nous appelez de Brazzaville. Et vous avez des questions concernant la procédure de destitution visant Donald Trump?
Oui, Juan, dans le cadre de sa procédure de destitution, Donald Trump a annoncé son refus de participer à une audition au Congrès. Existe-t-il un recours pour le contraindre à comparaître?
Ah, c'est vrai que Donald Trump refuse la confrontation, il ne participera pas à l'audition qui est prévue ce mercredi devant la commission judiciaire de la Chambre des représentants. Bonjour Jean-Éric Branat.
Bonjour.
Maître de conférence à l'université Panthéon-Assas, spécialiste de la politique et de la société américaine. Soyons précis, Patrice vient de dire que Donald Trump refusait de participer à cette audition devant le Congrès. Donald Trump a été invité, donc il s'agit d'une invitation et non d'une obligation pour le président américain.
Oui, Patrice a tout à fait raison. Et effectivement, il s'agit d'une invitation puisqu'on est dans un processus très particulier. On est passé de l'enquête à l'écriture des articles de mise en accusation. On est passé en réalité de la commission du renseignement chargée de cette enquête à la commission judiciaire chargée de l'écriture de cette mise en accusation. Or, à ce stade, il est prévu dans la procédure que le président peut assister, ce qui avait été le cas pour Nixon ou pour Clinton, ou alors il envoie ses avocats ou n'importe quel autre représentant de la Maison-Blanche. Mais Donald Trump a estimé que tout ça était une vaste mascarade et donc ne souhaite pas participer du tout à cette procédure.
Mais j'ai le souvenir, mais je parle sous votre contrôle, Jean-Éric Branac, il y a 2 semaines, dans un tweet, Donald Trump disait envisager sérieusement de participer à une audition.
Je suis sûr que si vous cherchez dans vos souvenirs, vous trouverez beaucoup d'autres exemples où Donald Trump a dit qu'il envisageait des choses que finalement il n'avait absolument pas l'intention de faire. Ça s'appelle de la politique chez Donald Trump. Il nous lance effectivement l'hameçon, il regarde ce qui mord à la fin, et s'il n'y a pas trop de réaction, eh bien il fait autre chose. Et là, encore une fois, il a un petit peu amusé la galerie en disant que oui, le processus démocratique l'intéressait, mais que comme, encore une fois, il s'agit d'une mascarade, il n'a vraiment pas le temps pour ce genre de choses. Il a beaucoup de travail. D'ailleurs, en ce moment, il se trouve en Angleterre pour s'occuper de l'OTAN. Donc, il laisse les démocrates s'amuser. Ce sont ses propres mots, ce ne sont pas les miens, bien entendu. Oui. Et donc, ne participe pas à cette procédure.
Vous aviez une autre question, Patrice ?
Oui, bien entendu. Quand pourrons-nous connaître les éventuels chefs d'accusation retenus contre le président américain ?
Ah, Jean-Éric Branaha, on va pas revenir sur l'ensemble de cette procédure de destitution. Pour résumer, on peut dire que ces 2 derniers mois, la commission judiciaire de la Chambre des représentants a mené son enquête. Il y a eu tous ces témoins qui ont été entendus avec des témoignages, disons-le clairement, défavorables au président Trump. Quelle est la prochaine étape ?
Alors, comme je le disais, on est dans l'écriture maintenant des articles de mise en accusation. Donc, c'est exactement la question de Patrice. De quoi accuse-t-on le président et quand va-t-on connaître précisément de quoi il est coupable ? Eh bien, on le sait depuis hier, en réalité, puisque la commission du renseignement a rendu son rapport et elle dégage déjà 2 articles de mise en accusation qui sont classiques, puisqu'on les trouvait à la fois chez Nixon et chez Clinton. C'est en 1, l'abus de pouvoir, et en 2, l'obstruction à la justice. Vous pouvez inverser l'ordre, ça n'a aucune importance. La commission de la justice peut en trouver d'autres, puisqu'elle va conduire elle-même des auditions, excusez-moi. Sachez que ces auditions peuvent durer de façon très variable. Souvenons-nous quand même, pour Nixon, ça a duré de février à juillet. Pour Clinton, ça n'avait duré que 2 jours. Donc, je ne peux pas lui donner la date exacte du moment où on va avoir cette mise en accusation et ces articles très précisément. On peut se dire que c'est entre aujourd'hui et le mois de juillet. Beaucoup plus sérieusement et beaucoup plus de façon beaucoup plus sûre, ça devrait arriver d'ici la fin de la semaine prochaine.
À suivre donc avec impatience. Merci Jean-Éric Branaha. Patrice, on a répondu à vos questions ?
Merci, tout à fait, Juan.
Jean-Éric Branaha, spécialiste de la politique et de la société américaine. D'autres questions, évidemment, demain. D'ici là, vous continuez à nous appeler, 33 9 693 693 70. Et c'est promis, demain, nous aurons ici Aka Mustapha, donc l'avocat de l'opposant et homme d'affaires béninois, en espérant que Vincent sera des nôtres et qu'il aura pu régler son problème de téléphone. Dans une minute, on va retrouver l'ensemble du service Afrique de RFI pour la dernière édition d'Afrique Matin. On sera de retour juste après pour débattre ensemble de la dette africaine. C'était l'objet du débat africain exceptionnel que vous proposez hier à l'Infoca autour des présidents sénégalais et ivoiriens, ainsi que la nouvelle patronne du FMI pour son premier déplacement sur le continent africain. Elle était là également autour du micro de RFI. La dette africaine, l'Afrique est-elle surendettée ? Avez-vous l'impression que l'endettement de votre pays sert à promouvoir le développement ? Voilà la question que je vous pose et on attend évidemment vos commentaires et témoignages. 33 9 693 693 70. À tout de suite.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent.